Les nuits de France Culture.
Paul Bocuse est l'un des plus grands chefs cuisiniers du XXe siècle. Triplement étoilé pendant plus de 50 ans, meilleur ouvrier de France depuis 1961, il est le premier grand chef médiatique et contribue à renouveler l'image du chef dans l'opinion publique. Moderne, innovant, créatif, Bocuse est néanmoins imprégné de la plus pure tradition de la cuisine française. Il se forme d'abord chez Eugénie Brasier, dit la mère Brasier, figure emblématique de la tradition gastronomique des bouchons lyonnais, et seule femme à être plusieurs fois triplement étoilée. Il passe ensuite plus brièvement à Lucas Carton, à Paris, avec les frères Troisgros, avant de travailler 8 ans dans les cuisines de son mentor et père spirituel, Fernand Point. Sa renommée dépasse aujourd'hui largement celle de ses mentors. Il a prêté son nom à de nombreux instituts culinaires, ouvert de nombreuses brasseries, et n'a cessé de publier des livres et de participer à des émissions de télévision jusqu'à sa mort en janvier 2018. Mais une liste de ses succès en cuisine comme ailleurs ne suffit pas à présenter adéquatement le personnage. Il faut l'écouter parler, faire part de sa passion du bon produit et se laisser enivrer par cette passion débordante qu'il exprime au micro de Jacques Pogam dans ce numéro de Parti pris, diffusé pour la première fois le 25 mars 1976.
Bonjour, les jeudis de Parti pris, comme chaque semaine, donc désormais un prélude à l'émission d'Antenne 2 apostrophe de demain soir. Demain, le thème sera un thème très réjouissant, la nouvelle cuisine française. Alors, à tout seigneur, tout honneur, avec nous aujourd'hui, Paul Bocuse. Paul Bocuse, vous êtes l'un de nos grands chefs, vous êtes un grand ambassadeur de la cuisine française et vous venez de publier chez Flammarion un livre intitulé « La cuisine du marché ». C'est une œuvre monumentale qui foisonne de recettes et vous les accordez là très très généreusement. Est-ce que ça veut dire pour vous que la cuisine et ce qu'on appelle la grande cuisine n'a rien à voir avec le mystère ?
Oui, puis le mot « grande cuisine », je n'aime pas non plus. Pour moi, il n'y a que de la cuisine. Et la cuisine, avant tout, c'est le produit. C'est-à-dire que si on a la chance d'avoir une maison à la campagne et pour le soir on va arracher un poireau dans son jardin, une pomme de terre, là je suis sûr qu'on fera un bon potage. Et avant tout, quand une fait son marché, il faut chercher le produit de qualité. Donc déjà, si on a des produits de qualité, même si c'est moins bien cuisiné, on ne prend pas de risque.
Alors à propos de produits de qualité, vous savez tout ce qu'on dit maintenant, il n'y a plus de poulet, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela, c'est vrai ou c'est faux?
On le disait déjà en 1902 qu'il n'y avait plus de produits. Qu'est-ce que va devenir la cuisine en 1902? Et je pense pas. Les produits d'aujourd'hui sont merveilleux, bien sûr. Il y a des produits de grande consommation, et puis il y a les autres. Mais c'est là le secret. C'est là où il faut les chercher, c'est sur les marchés. Et bien souvent, il faut aller dans les marchés et choisir, c'est pas... Et surtout, essayer de manger avec la saison. Les tomates sont bonnes au mois de juillet, fin juillet. Les fraises sont bonnes au mois fin mai. Les cerises au mois de juin, et c'est là qu'il faut rester sérieux, parce que finalement, il n'y a plus de saison, et les saisons vont tellement être en avance qu'on va se retrouver à la bonne saison.
Il y a des gens qui vous envient et qui disent que si vous réussissez dans la région lyonnaise, c'est parce que vous avez là-bas des meilleurs produits que les produits qu'on trouve à Paris, c'est vrai ça?
Je le pense, oui, pour la bonne raison que Lyon, on a la chance d'être situé près de la Bourgogne, donc le Bourgogne, il y a le vin, près des Côtes-du-Rhône, il y a le vin aussi. Et puis dans cette côte du Rhône, il y a tous les primeurs, il y a toutes les asperges, il y a tous les petits légumes qui arrivent. On n'est pas loin de la Bresse, où il y a toutes ces volailles de Bresse, ces merveilleuses volailles de Bresse. On est près du Charolais. Maintenant, on est près du lac d'Annecy, où le lac d'Annecy est revenu un poisson merveilleux, puisqu'il a été donc... on a mis un tuyau tout le tour, l'eau est revenue claire et les ombles sont formidables. Et puis on a aussi tout le poisson de Méditerranée qui arrive, parce que maintenant, il y a un poisson de Méditerranée qui est formidable.
Donc c'est important d'être dans un endroit de passage.
Oui, de passage, et puis surtout où les gens aiment manger. Et Lyon, avant tout, quand on est avec des Lyonnais, de quoi ils parlent? Du repas qu'ils ont fait la veille, de celui qu'ils ont fait en train de le faire, ils n'en parlent pas, mais ils vont parler de celui qu'ils vont faire le lendemain.
Paul Bocuse, est-ce qu'on fait la cuisine de la même manière pour une femme qui porte un collant et pour une femme qui porte un corset?
Vous savez, la cuisine, il faut la faire d'abord pour soi-même, parce que je ne pense pas qu'un peintre, quand il peint un tableau, il le peint pour lui. Quand un musicien joue de la musique, je ne pense pas qu'il s'occupe pour qui il joue. Donc nous, quand on fait la cuisine, on le fait d'abord pour nous, pour ce qu'on aime, nous. Et finalement, on fait manger aux autres ce que le cuisinier aime, parce qu'un plat qu'on n'aime pas, on ne le fait pas.
Vous feriez la même chose pour Michel Jobert et Paul Laurent, par exemple?
Oui, pour la bonne raison, je ferai que ce que j'aime moi et j'essaye d'imposer mes goûts, c'est-à-dire mon style. Je pense que les peintres ont eu une époque bleue, nous on a eu une époque de poisson, on peut avoir une époque de viande. Un jour on peut supprimer un plat sur la carte qui est très bon, mais on ne veut plus le voir parce qu'on en a assez.
Comment vous faites rentrer un produit sur la carte?
Eh bien c'est assez facile. Vous savez, pour moi, il y a difficilement de nouveaux plats. Finalement, tous les plats ont été faits, tous les plats ont été exécutés, mais enfin, il peut y avoir une nouvelle interprétation. Et quand on met un plat en service, d'abord, je dis que je suis le commandant de mon navire et qu'avec moi, j'ai 48 matelots. Dans ces 48 matelots, il y a 18 cuisiniers, il y a 18 dans la salle et puis tout le reste. Et donc, si vous voulez, c'est un grand navire. Et avant, il faut d'abord il faut mettre les gens en confiance, d'abord ceux qui le font. D'abord, on le goûte, on le fait pour nous. Et là, tout le monde critique, tout le monde pense que ça va pas. Et après, on le met en service. Et on le met en service et on regarde ce qui revient dans les assiettes. Parce que ce qui est important, c'est ce qui revient dans les assiettes. Donc, s'il ne revient rien dans les assiettes, c'est que le plat est bon, il a les quantités qu'il faut. Mais enfin, il peut revenir quand même dans les assiettes et que le plat soit bon. Mais donc, c'est preuve qu'il n'est peut-être pas placé où il faut. Il faut peut-être le placer à la fin, il faut peut-être le placer au début. Et ça, c'est le meilleur test, c'est les assiettes vides.
Qu'est-ce que vous pensez de la surenchère des appellations aujourd'hui? Il faudrait presque un dictionnaire pour aller dans certains restaurants.
Oui, d'ailleurs, je suis contre ça, moi. Et je veux que les choses s'appellent par leur nom. Du bœuf, ça s'appelle du bœuf, de l'agneau, ça s'appelle de l'agneau. Un rouget, ça s'appelle un rouget. Que des fois, je vois bécasse de la mer. Bon, ben, bécasse de la mer, c'est pas un rouget. Pour moi, un rouget, c'est un rouget. Et je dis souvent, les appellations fantasy, pour moi, je dis non, parce qu'il faut laisser aux gens les choses, les appeler par leur nom.
La cuisine simple.
Cuisine simple, et puis il faut mettre les gens en confiance, il faut leur expliquer, et je pense que le rôle d'un restaurateur ou d'un cuisinier, c'est d'informer les gens, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
Vous avez dit dans un interview, les gens qui viennent dans nos maisons sont nos invités, et qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ils nous donnent un peu d'argent pour que nous puissions inviter d'autres gens le lendemain. Au fond, c'est la table d'hôtes chez vous.
Oui, parce que finalement, ce qui nous ennuie le plus, nous les cuisiniers, comme je pense, c'est finalement de donner une addition. C'est très désagréable de donner une addition à la fin de leur repas, mais il faut bien vivre, et comme je dis, il faut bien pouvoir en inviter d'autres le lendemain. Finalement, ils sont tous nos invités, ils nous donnent un peu quelque chose pour pouvoir en inviter d'autres le lendemain. C'est ce qui est le plus désagréable pour nous, l'argent.
Mais qu'est-ce que coûte un bon repas chez vous?
Vous savez, il coûte cher ou pas cher, mais si on additionne tout ce qu'on donne, depuis l'entrée dans un restaurant comme chez nous, comme chez les Trois Gros, comme chez Chapelle, comme chez Verger, comme chez Guérard, comme chez Outhier. Donc, on arrive là-dedans, il y a un train de vie important, il y a beaucoup de fleurs, il y a des nappes pur fil, il y a de l'argenterie, il y a le double de personnel qu'il en faut. Donc, on donne déjà une prestation de service importante. Et puis après, on donne le produit. Donc, finalement, un client qui vient chez nous, qui mange qu'un plat, qui est sur la route, il mange un seul plat, et bien finalement, il a fait un merveilleux dîner, et ça lui coûte pas plus cher qu'ailleurs.
Il est bien accueilli, celui qui vient.
Bien sûr, même s'il boit de l'eau.
C'est rare aujourd'hui en France.
Mais non, pas chez nous, pas en province. Nous, en province, nous sommes des gens qui comprenons les gens qui voyagent, et ça m'arrive souvent. Un monsieur qui est au bout du fil, il me dit: Paul, je suis à Beaune, je prends de l'essence, tu me mets un poulet à la broche, j'arrive, et dès que j'arrive, je veux mon poulet sur table. Bon, on lui fait, et pour nous, c'est le merveilleux client, parce qu'il arrive, il a faim, il sait ce qu'il veut, même s'il boit de l'eau, puisqu'il va conduire encore 200 ou 300 km derrière. On est entièrement d'accord.
Mais qui vient chez vous?
De tout. Il arrive que des fois, il vient l'autre jour, une clientèle jeune d'abord, je ne sais pas pourquoi, mais
elle est
très jeune. Et quand on me dit que les jeunes n'aiment pas la gastronomie, eh bien là, je m'y oppose. Là, j'ai lu dernièrement que Sylvie Vartan et Johnny Hallyday n'étaient pas des gastronomes. Là, je me pose formellement. Ce sont des gens qui aiment manger, qui viennent avant, qui commandent leur menu et qui savent ce que c'est que la cuisine. C'est ça qui est formidable. Et il y arrive des gens très simples. De temps en temps, une cagnotte qui est là, ce sont des gens qui travaillent à la compagnie des eaux, à une usine de mécanique, et ils ont une cagnotte. Et finalement, ils se figurent que chez Bocuse, ça coûte beaucoup plus cher qu'ils le pensent. Il y a souvent beaucoup trop.
Est-ce que vous aimeriez faire la cuisine pour des clochards?
Pourquoi pas? il peut y avoir des clochards qui aiment déguster des merveilleux plats. Et puis, vous savez, moi, chaque année, je reçois les têtes blanches de Collonges. Ils sont 80. Chaque année, je leur donne une fête et je les sers aussi bien et même mieux que les clients habituels. C'est ça, finalement, la cuisine, faire la cuisine pour les gens qu'on aime.
C'est la fête.
C'est la fête et il faut que ça soit comme ça. Dans le temps, la restauration, on allait au restaurant et après on allait au théâtre. Maintenant, on va ou au théâtre ou au restaurant. Et donc, il faut que ça soit une fête, que les gens soient à l'aise, pas les uns sur les autres. Nous, on aime que dans nos restaurants, il y ait de la place. On pourrait mettre le double de clients qu'on veut chez nous. Mais non, au contraire, on a espacé les tables. Et quand on a fait 70 couverts par service, on en a largement fait assez.
Effectivement, ce qui frappe les gens qui vont pour la première fois chez vous, c'est évidemment la qualité de ce qu'on leur sert. Mais il y a aussi le silence. C'est assez rare dans un restaurant, le silence. Et chez vous, il y a un calme.
Oui, on essaye que les gens soient bien, parce que premièrement, c'est cloisonné. On n'aime pas une grande salle où tous les gens se voient, si vous voulez. Nous, on a préféré avoir où les gens se sentent un petit peu chez eux. Et puis, on essaye surtout de les mettre tout de suite en confiance. Quelqu'un qui vient avec une cravate, sans cravate, c'est pas notre problème. Vous comprenez, à l'heure actuelle, nous sommes un restaurant mi-ville, mi-route. Donc, il vient les gens, comme ça leur fait plaisir. Et puis, c'est pas pour ça que ça sera pas des gens qui aiment la cuisine.
Vous mettez les gens en confiance, donc vous êtes dans la banlieue lyonnaise, est-ce que vous avez souvent des truands, des grands truands qui viennent là trouver la consécration d'un certain luxe, non ?
Vous savez, d'abord, je ne les connais pas. Et puis, en plus de ça, pourquoi qu'ils ne soient pas aussi gastronomes ? Je pense que le palais n'a rien à voir avec la profession qu'on peut faire.
Vous, vos trois étoiles, vous les avez gagnées, méritées, dans le temps qu'il faut à certains pour cuire des œufs à la coque, non ?
Non, je pense que je suis resté avant 7 ans chez Point à Vienne, qui pour moi, Point à Vienne, était ce fameux cuisinier qui a donné quand même l'esprit de la cuisine d'aujourd'hui.
La cuisine simple, c'est ça ?
Oui, la cuisine simple, je ne dis pas nouvelle, parce qu'il y a toujours eu les nouveaux romans, les nouvelles pièces de théâtre. Je pense qu'il n'y a avant tout que de la cuisine.
Et la tradition familiale chez vous, c'est important ça ?
Oui, chez nous, il y a longtemps qu'on est dans la même commune, puisqu'on est dans la même commune depuis 1634. Mes arrière-grands-parents étaient des meuniers. On avait un moulin le long de la Saône et je crois que le moulin s'est transformé en restaurant en 1765. Pour la bonne raison que le paysan qui amène son grain, ça se passe toujours d'ailleurs comme ça dans les moulins, veut repartir avec la farine de son grain. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il arrivait le matin avec le bateau, puisqu'on était le long de la rivière, il amenait son blé à moudre. Et pendant que le blé était après se moudre, il devait dîner dans le moulin et le moulin est devenu un restaurant.
Au fond, si on vous demande ce que vous avez apporté en propre, vous avez du mal à répondre.
Je pense que j'ai amené, si vous voulez, je peux peut-être pas arriver encore au but, mais aujourd'hui, la cuisine appartient au cuisinier. Donc, si vous voulez, tout cuisinier aujourd'hui peut devenir propriétaire d'un restaurant. Avant, c'était pas le cas. Le cuisinier, en général, était à la merci d'un industriel, à la merci d'un monsieur qui exploitait le restaurant. Le cuisinier, on le laissait à la cuisine, on le faisait pas voir. Tandis qu'aujourd'hui, le cuisinier va voir le client, fait ses relations publiques, et c'est ça qui est important, la cuisine au cuisinier. Avant, qu'est-ce qu'on était ? À part quelques exceptions comme Escoffier, Carême, Prosper Montagnier, mais on était des domestiques, maintenant nous sommes venus des patrons.
C'est l'autogestion dans la cuisine ?
Oui, et puis le métier de cuisinier maintenant, peut-être grâce à Raymond Oliver, qui a prouvé qu'à la télévision, un cuisinier, c'était pas obligé, c'était un monsieur qui pèse 150 kilos, avec une trogne rouge, comme je m'insure à voir ça sur les routes. Quand on représente un cuisinier sur les routes, qu'est-ce qu'on voit ? Un cuisinier en contreplaqué. Alors là, j'appuie sur l'accélérateur. Jamais je m'arrêterai dans un restaurant où on prend un cuisinier comme pantin. En général, les gens qui font ça ne sont pas cuisiniers.
Et car vous, à 50 ans, vous êtes encore, je crois, capitaine d'une équipe de football. C'est pas mal, quand
oui,
même.
Oui, non, mais ça, c'est, vous savez, c'est très amateur. C'est,
bah, donc, il faut le faire, quand même. À 50 ans, en étant un grand chef.
C'est le navire. Et donc, si vous voulez, il se voit que le commandant, soit dans l'équipe de football, on prend plus souvent des raclés qu'on gagne.
Et vous aimez beaucoup ces comparaisons, le navire, le
oui, parce que finalement, vous savez,
de grand large.
Oui, et puis nos maisons, on vit sur nous-mêmes, tout le monde est attelé à la même charrue, et si Paul Bocuse est là aujourd'hui, c'est grâce à tous les gens qui sont avec lui, et ça c'est très important d'avoir, j'ai par exemple Robert, mon chef qui est là depuis 17 ans, j'ai Claude qui est là depuis 12 ans, le plus jeune des cadres, c'est-à-dire à 7 ans de maison, c'est-à-dire que je pense que nous sommes une très vieille maison tout en étant très jeunes.
C'est-à-dire qu'on mange bien chez vous parce que les gens qui y travaillent se sentent bien.
Oui, et puis il faut qu'ils pensent et qu'ils croient à ce qu'ils font, et finalement on est tous attelés au navire et il faut le tirer, et ce navire ne peut pas bien aller si jamais il y a quelque chose qui coince dans les rouages.
La question de notre invitée d'hier, Suzanne Brézard.
Paul Bocuse, pourriez-vous me dire quelles sont les qualités que vous jugez essentielles pour le bon cuisinier ? Cela m'intéresse beaucoup.
Je pense que, comme dans tous les métiers, il faut avoir avant tout l'honnêteté. Et quand on a l'honnêteté de son travail, l'honnêteté du produit, avec ça on va très loin. C'est le secret finalement de la réussite.
Paul Bocuse, vous avez dit dans un interview très récemment, les femmes, excusez-moi, je les aime beaucoup, j'aime beaucoup leur cuisine, c'est très mijoté, très vrai, mais je soutiens que les femmes n'inventent rien. Alors là, vous n'allez pas vous faire des amis.
Non, écoutez, là c'est, puisque finalement, tout ce qui est écrit, il y a une chose que je veux mettre au point. On me pose toujours la question, les femmes, et je dis toujours, les femmes sont de très bonnes cuisinières. Je dis bien, les femmes sont de très bonnes cuisinières. Mais il n'y a aucune femme chef, c'est-à-dire qu'aucune femme dirige une brigade. Et quand une femme est cuisinière, prenons le cas de la mère Fillou à Lyon qui a dû tenir son restaurant pendant 30 ou 40 ans, prenons le cas de la mère Brasier qui a dû le tenir autant, a fait toute sa vie la même chose, c'est-à-dire un fond d'artichaut foie gras, une quenelle lyonnaise, chose qui est merveilleuse, de temps en temps une langouste belle horreur, et toujours la même viande, une volaille de Bresse bouillie. C'est merveilleux de pouvoir tenir avec les mêmes recettes. Tandis que nous, les hommes, je pense qu'on se lasse très vite des plats, on veut changer, et on prend des risques, des fois on les prend bien, mais des fois on les prend mal. Mais c'est ça finalement. Et puis finalement, la cuisine, c'est un métier très dur, c'est un métier... Les femmes faisaient la cuisine par obligation, bien souvent, vous comprenez. La femme qui est qui a 5-6 enfants, vous pensez que ça doit la faire rire de faire la cuisine tous les jours? Je ne pense pas. Bien sûr, la cuisine du dimanche, il y a quelques femmes merveilleuses. Par exemple, il y a une femme merveilleuse au restaurant du marché qui fait la cuisine merveilleusement bien. Mais elle fait une cuisine à elle, c'est-à-dire une cuisine du Périgord, une cuisine des Landes. Donc c'est une cuisine bien à elle. Et c'est ça, finalement. Les femmes restent avec ce qu'elles savent faire. Par exemple, quand vous, ça peut vous arriver que vous allez manger chez des amis, eh bien, vous êtes à peu près sûr du menu qu'ils vont vous faire. Qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Le soufflé au fromage, et puis derrière, je sais pas, moi, l'entrecôte bordelaise, parce qu'ils savent la faire à la perfection. Le coup d'après, ils vont faire autre chose, mais vous êtes sûr d'après de vous remanger le soufflé au fromage.
Quand vous voyez quelqu'un comme ça, vous arrivez à deviner ce qu'il vous fera manger lorsque vous irez chez lui?
Oui, et en général...
Bernard Pivot, par exemple, vous serez avec lui demain soir. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir chez Bernard Pivot?
Eh bien, je pense que Bernard Pivot, d'abord, est d'un pays qui connaît bien ce qu'il, de quoi il parle, puisqu'il est du Beaujolais. Et dans le Beaujolais, vous savez qu'on a quand même des ressources. Et je connais Bernard Pivot, je pense que c'est un homme simple, et je suis sûr qu'il fera une cuisine très simple. Parce que, finalement...
Pot-au-feu, des choses comme ça?
Oui, et à condition qu'il soit... C'est sûrement ça. Il nous fera peut-être qu'une salade, une salade de pissenlit, mais elle sera bien assaisonnée. Et vous savez... Pour moi, la cuisine compliquée, je ne l'aime pas. Mais enfin, ça n'engage qu'à mon point de vue. Et puis aujourd'hui, la cuisine est quand même allégée. Et ça, si vous voulez, Michel Guérard a mis un essor formidable dans cette cuisine minceur. Et là, je pense...
Ça peut être de la bonne cuisine. Je veux dire, ça peut être agréable à manger, cette cuisine.
Ça peut être agréable à manger, mais pour moi, ce n'est pas mon problème. Si vous voulez, pour nous... La cuisine, pour moi, comme je la considère à Lyon, comme je vous disais tout à l'heure, comme nos amis lyonnais la considèrent, pour moi, c'est de la crème, du beurre, toujours du beurre et encore du beurre. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Fernand Point. Et vous savez, faire de la cuisine sans crème, sans beurre, sans fromage, sans vin, il reste pas grand-chose. Mais n'empêche pas que quand même que Guérard a amené quelque chose à la cuisine française, c'est-à-dire qu'il a amené une présentation, une cuisine minceur, qui est quand même formidable.
Aujourd'hui, on a vu se développer tous les selfs, et en particulier le long des autoroutes. On a un peu l'impression que le retour de bâton se fait. Pour vous, c'est un signe de santé de la part des Français de réagir un peu contre cette cuisine stéréotypée là.
Vous savez, on me reproche de voyager un petit peu, et de temps en temps, je vais aux États-Unis. Et finalement, c'est très bénéfique de voyager, parce que finalement, on voit ce qui se passe ailleurs, on s'aperçoit que les gens ne dorment pas ailleurs, et il faut quand même qu'on se réveille. Et les autoroutes, il faut une cuisine de grande consommation, mais enfin...
Oui, mais elle est souvent prétentieuse.
Oui, mais enfin, vous savez, je pense qu'on en dit plus quand même qu'il s'en fait. Parce que ça m'est arrivé, moi, de m'arrêter sur l'autoroute et de manger un faux plat merveilleux. Il ne faut pas s'attendre d'être dans une autoroute et de manger, je ne sais pas, moi, une... seulement une volaille au vinaigre, ou mangeons simplement. Bien sûr qu'il peut y avoir, vous savez, ils ont des moments de bourre, ça peut des fois pas être merveilleux, mais enfin, l'autoroute, il la faut.
Vous êtes donc, le grand ambassadeur de la cuisine française. Vous avez l'impression qu'on a toujours le haut du pavé dans ce domaine?
Je pense qu'on l'a uniquement dans ce domaine, parce que dans le reste, partout où on peut aller, la cuisine française, c'est quand même l'art qui ne s'est pas détruit en France, et dès qu'on arrive quelque part, on est attendu à l'aéroport. Les gens, je pense, aiment la cuisine, puisque je vais toutes les années dans une école au Japon où il y a 1500 élèves, et le japonais se met à la cuisine, donc je trouve ça formidable. Le japonais qui a ni les mêmes goûts que nous, qui n'utilise pas de sel, veut connaître la cuisine française, donc je pense que c'est formidable.
Ce qu'il y a peut-être de plus frappant lorsque un néophyte, enfin, comme moi, comme toute l'équipe de Parti pris, lorsqu'un néophyte regarde ce livre, ce merveilleux livre là, que vous publiez chez Flammarion, c'est le mode d'emploi que vous en donnez. Alors là, on ne s'attend vraiment pas à ça.
Oui, parce qu'un livre de cuisine, écoutez, moi, j'adore la musique, mais je ne sais pas en jouer. Si j'ai un mode d'emploi pour jouer du violon, eh bien, je m'en vais mettre un sacré bout de temps hein, en lisant le mode d'emploi pour jouer du violon. Ou alors, si Picasso avait fait un livre de comment il faut peindre un tableau, en me donnant les grammes de rouge, les grammes de vert, les grammes de bleu pour faire le tableau en disant exactement où il faut le placer, c'est pas sûr que je sois arrivé à faire le tableau comme Picasso le fait. Donc un livre de cuisine, c'est un guide, c'est un roman, il faut le lire comme un roman, et l'avantage des autres romans, il donne fin à toutes les pages, et c'est là que vous avez gagné.
C'est encore un livre de fête, quoi.
C'est un livre de fête, et puis finalement, il y a quand même de bons trucs dessus, il y a de bonnes choses, il y a des plats très simples, la façon de faire une omelette, c'est très important de faire une omelette, la façon de cuire un faux plat, et c'est ça finalement la cuisine. Et aujourd'hui que le livre est fini, on voudrait déjà le refaire, puisque finalement, on pense qu'il y a encore autre chose, et puis j'ai quand même été aidé par un homme à qui j'ai repris les recettes, en accord avec sa veuve, c'est Alfred Guéraud, qui était pour moi un cuisinier de génie, et j'ai pas peur, parce que finalement, beaucoup de gens font des livres de cuisine, ils prennent les recettes à tout le monde, mais jamais ils le disent. Tandis que moi, j'ai une honnêteté de dire que j'ai fait avec Alfred Guéraud, je le dis dans ma préface, je le dis aussi que j'ai été aidé par Louis Perrier, parce que finalement, Paul Bocuse ne peut pas tout faire, mais enfin, j'ai quand même mis mes recettes avec la soupe de truffe, le loup en croûte, les volailles en vessie, et ça c'est du Bocuse, et il y en a à peu près 300, et ça c'est les vraies recettes de Bocuse.
Mais aujourd'hui, est-ce que, en dehors donc, de quelques livres de recettes comme ça, de grands chefs, est-ce que tous les autres ne se ressemblent pas un peu? Est-ce que ça n'est pas une industrie? Parce que ça marche très bien, ces livres-là.
Oui, mais ça a toujours bien marché depuis Carême. Il y a un moment qu'on sort des livres de cuisine. Et puis finalement, dans une bibliothèque, c'est intéressant d'avoir un livre de cuisine. Il vaut mieux ça qu'un livre de guerre.
Au fond, à 50 ans, vous êtes un homme en pleine sérénité. Pas de problème, vous êtes heureux?
Bien sûr, très heureux.
Vous avez atteint le sommet de votre métier?
Non, on n'a jamais atteint son sommet. Vous savez, j'ai encore beaucoup de choses à faire.
Par exemple?
Je commence parce que je m'aperçois que tous les jours, tout est à reconsidérer. Nous avons un métier terrible. Il faut qu'on donne le spectacle tous les jours, et tous les jours, et deux fois par jour. Et vous savez, pour faire de la bonne cuisine, il faut très peu de choses, comme pour en faire de la mauvaise d'ailleurs.
Le président de la République vous a décoré de la Légion d'honneur il y a quelques mois. Est-ce qu'hier soir, en le voyant, vous sentiez solidaire de lui?
Oui, énormément, parce que je pense que j'aime beaucoup le président de la République et j'ai toujours admiré tout ce qu'il a fait.
Et sur le plan de la cuisine, ses goûts sont proches des vôtres.
Bien sûr, c'est un bon gastronome, puisque de temps en temps, vous le voyez qu'il fait une escapade chez un Jean de la Veine à Pogival, chez un Saint-Reims, on voit qu'il va dans les restaurants, donc c'est preuve qu'il s'intéresse à la cuisine. Et un président qui aime manger, pour moi, c'est un bon président.
Qu'est-ce que vous aimeriez faire maintenant, en dehors de la cuisine, si vous aviez le temps?
Rien d'autre que de la cuisine, continuer ce que j'ai fait, parce que pour moi, c'est le métier le plus beau du monde, et il m'a amené tellement de choses. Pourquoi je le renierais aujourd'hui?
Et inviter des amis?
Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, inviter. D'ailleurs, si un jour j'ai la chance de pouvoir me retirer, mais ce n'est pas sûr, j'aurai une très grande maison avec une très grande cuisine et tous les jours, j'inviterai quelques amis pour essayer de faire la cuisine que Bocuse l'aime. Et là, vraiment, on pourra dire, ça, c'est du Bocuse.
Parti pris, Paul Bocuse, je vous rappelle le titre donc de ce livre publié chez Flammarion. Je dis un livre, enfin c'est une somme, ça s'appelle La cuisine du marché. C'est merveilleusement illustré, enfin, je crois que ça vaut la peine de lire ce livre. Demain, vous retrouverez Paul Bocuse, c'est à la gare de Lyon, c'est ça?
Oui, à la gare de Lyon.
Alors un endroit, alors là pour vous, c'est un temple cet endroit.
Oui, et puis c'est merveilleux, il y a un décor formidable. Et là finalement, vous savez que pour la cuisine, il faut quand même du décor, mais du décor dans la salle et non dans le plat.
Donc, au Train Bleu demain soir, apostrophe de Bernard Pivot avec Paul Bocuse, Gaston Lenôtre, des cuisinières et des chroniqueurs. Tiens, on n'a pas parlé de cela. Enfin, on fera une autre émission, on peut parler d'eux. Ainsi d'ailleurs que des inspecteurs, des guides, parce qu'il y aurait pas mal de questions qu'on pourrait se poser parfois.
Mais enfin,
une demi-heure, c'est court.
Je pense que si la cuisine française est là aujourd'hui, c'est grâce à tous les guides qui ont paru, parce que finalement, ils nous poussent et toujours à mieux faire. Et il faut qu'on fasse attention tous les jours.
Demain, un parti pris mot à mot avec Jacques de Bourbon-Busset. Et lundi, nous aurons comme thème l'homéopathie en question. Ça tombe bien, ça, avec le docteur Jacques Michaud, Paul Bocuse. Vous avez une question pour le docteur Michaud?
Oui, je pourrais lui demander qu'est-ce qu'il pense de la cuisine de l'an 2000 et est-ce qu'il se pose peut-être, eux, qui la feront en petite pilule.
C'est-à-dire que vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous ferez alors?
Je continue. Nous, on continuera, puisque finalement, il y aura toujours des gastronomes pour manger les produits de la terre, et ça, ça va en durer encore longtemps.
Je vous remercie. Je vous rappelle notre adresse, parti pris, pièce 4718A, maison de Radio France, 75 790, Paris, Sélex 16. Merci d'être avec nous et à demain.
C'était un numéro de Parti pris avec Paul Bocuse au micro de Jacques Pogam, diffusé pour la première fois le 25 mars 1976.